I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Quand je lui parle porno, il me répond Arthur Rimbaud. En une phrase, vous ai résumé l'échange original et tout azimut que j'ai eu avec Alexis, créateur du podcast Le Son du Désir, une fiction érotique immersive. En vrac, de sa vraie vie et celle plus fantasmée, Alexis partage ses émois adolescents, l'importance de la littérature dans sa vie, son amour pour Arthur Rimbaud, du rire, de la poésie, de la musique, des rencontres qui l'ont forgé, pour découvrir en fil rouge la dévotion d'un homme amoureux des femmes qui a créé un podcast dédié à leurs désirs, leurs envies et leurs fantasmes. Également, la réflexion qu'il opère en tant qu'homme hétéro et son observation de la façon dont étaient normalisées certaines pratiques sexuelles et comportements des hommes vis-à-vis des femmes. Et ne ratez pas, s'il vous plaît, sa très bonne imitation de Fabrice Lucchini. Petit conseil, restez jusqu'à la fin, j'ai une annonce à vous faire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Alexis, qui a une voix qui va sûrement vous dire quelque chose. Alexis du podcast Le Son du Désir. Comment ça va, Alexis ?
Super, on est bien installé.
T'as failli te faire mal, mais c'est gentil.
C'est vrai.
Alexis, je vais te poser la toute première question que je pose à mes invités. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ou à l'érotisme ? Est-ce que tu t'en souviens ?
Moi, ce sont surtout des souvenirs cinématographiques ou des souvenirs littéraires. Cinématographique parce que finalement quand on est enfant, bah, la sexualité on va la voir évoquée dans des films, dans des images, on va la voir, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu. Mm-hmm. Et puis quelquefois, je sais pas, on descend de sa chambre, on arrive dans le salon où il y a un film où il y a juste deux personnes qui s'embrassent et puis d'une façon très prude, ma mère de mettre la main devant l'écran et non, je n'ai pas le droit de voir ces personnes qui s'embrassent. Et là, tu sais qu'il y a quelque chose
derrière cette main
qui est intriguant, totalement intriguant. Dans le domaine des histoires, finalement, dans ces différentes lectures, même des lectures assez jeunes, tiens, pourquoi certains livres sont-ils plus haut dans une bibliothèque Et puis, pourquoi quand tu vas chez des amis, eh bien, il y a des bandes dessinées, finalement, elles ne sont pas communes. Quand tu tombes sur une bande dessinée de Manara au milieu des boulets billes, chez des amis, ça fait un peu bizarre.
Ils n'ont pas bien rangé.
C'est très sympathique. Je conseille à toutes les personnes qui ne connaissent pas Manara. De se documenter. Voilà, ça vous donnera un petit peu, vous ouvrira les portes de la conscience.
Et de la BD, bien sûr.
Et de la bande dessinée.
On parlait librement de sexualité chez toi, qui est née fin des années 70.
Mais jamais, ça n'existe pas. Oui, c'est-à-dire, étant donné que je suis un personnage complètement romanesque et donc j'atterris comme ça de n'importe où.
D'accord, d'une planète.
Je n'ai pas de vie. Ce qui est vrai, c'est que effectivement. Rien de sensualité, de sexualité, de toute évocation de toute mon enfance dans le cercle familial. Et ça ne me dérange point.
Comment tu vas t'éduquer au fur et à mesure Alors tu parles des livres, tu parles des films, tu parles des images, mais comment ça va devenir un peu plus concret et comment ça va devenir un peu plus charnel avec toi-même?
Moi, je fais un podcast qui s'appelle Le Son du Désir et qui est dédié aux femmes. D'ailleurs, mm-hmm. Tous les épisodes commencent par « Allô, ma chérie ». Et en fait, c'est l'engagement d'une vie. C'est-à-dire que même si dans ma famille, effectivement, il n'y a jamais eu, comme je le disais, l'évocation de la sexualité, eh bien, il y a toujours cette éducation de ma mère me dit « Une fille, tu la respectes, une femme, tu dois y faire attention, tu ne frappes pas une femme, ni avec une rose. » Et mon podcast, en fait, c'est la continuité de tout ça.
D'accord, c'est de faire attention aux femmes.
Ouais, de vouloir faire quelque chose qui soit un lieu dédié aux femmes et qui soit à leur service.
Okay.
Et toute ma vie, finalement, ça a été un peu ça, c'est-à-dire d'être au service de la femme qui me charmait.
Justement, c'est quoi tes tout premiers souvenirs de cette fille qui te charme ? Parce que pour en arriver à 40 ans passés à raconter des histoires, à se nourrir du beau, de l'érotisme, de la sensualité, etc., pour le plaisir des femmes et leur parler, tu vois, au plus proche de leurs oreilles, leur susurrer des belles histoires de sexualité, d'amour, d'érotisme, il a fallu que ce soit nourri tout ça. Donc tu as, j'imagine, adolescent, des souvenirs de rencontres, de fantasmes, de rêves autour de ces jeunes filles. Est-ce que tu t'en souviens un peu ?
Il suffit juste qu'à cette époque, je sorte dans la rue pour finalement être entouré de jeunes filles, de jeunes femmes, et de me dire, mais elles sont toutes tellement formidables, tellement belles, il y a toutes, en chacune, il y a quelque chose qui est attirant, et je ne saurais pas dire pourquoi, mais finalement qui est passionnant, qui me passionne toujours. C'était comme un feu d'artifice tout autour. Il y a ce film de Truffaut, L'homme qui aimait les femmes. Quand j'ai découvert, quand j'avais 14 ans, je me suis dit, oh, mais c'est exactement ça, mais c'est génial. Et finalement, pas une passion de la femme comme se dire, je vais toutes leur sauter dessus et je veux les avoir.
Oui, pulsionnel et...
Non, dans autre chose. C'est, vous êtes tellement plus belle, plus intelligente, plus balèze, plus... que tout, que en fait, je suis à genoux. Voilà.
Il y a une forme de sacralisation pour toi de la femme ?
Ouais, totalement. Moi, quand j'étais au collège, j'étais ce genre de garçon boutonneux qui rêve devant toutes les filles et dont aucune ne veut pratiquement. C'est-à-dire, elles étaient toutes en train de rêver sur des garçons qui jouaient au foot ou des choses comme ça. Et j'étais pas très foot et... Mais aujourd'hui, je le déteste, ce sport. Et c'est tellement inintéressant. Mais...
voilà, pas du tout de traumatisme, pas du tout, non, rien à voir.
Tu voulais que je parle avec...
non, mais j'ai...
Dans un esprit libre
libre.
Et sans barrière.
Et t'aidais ce jeune garçon qui regardait ces filles qui ne te regardaient pas.
Et qui, en cours de technologie, finalement, dès qu'il y avait un truc à faire, il fallait faire des soudures. J'avais des brûlures sur tous les doigts. Et c'est les filles qui faisaient à ma place, parce qu'elles le faisaient mieux. Et je disais, waouh, elles arrivent à faire tellement de choses, c'est génial. Donc du coup, je ne sais plus du tout où je voulais en venir, mais finalement, si, allons-y. Il y a cette vision d'un idéal féminin, mais qui peut se retrouver dans chacune des femmes.
D'accord.
Nourrie par des expériences plutôt tristes, finalement, pendant longtemps.
Un amour unilatéral.
Oui, absolument, c'est-à-dire dans une sorte de passion au pluriel, juste dans un seul sens, comme tu viens de dire, et qui finalement, on nourrit ce fantasme, on nourrit toutes ces choses qui m'ont fait travailler plus tard, m'ont fait réaliser des choses au fur et à mesure, et essayer d'être à chaque fois quelqu'un de me réinventer, donc pour essayer à chaque fois d'être quelqu'un de meilleur, pour pouvoir peut-être un peu mieux séduire, en tout cas, ou mieux... c'est pas tant séduire, finalement... Être séduisant.
Je comprends. Est-ce que ces sentiments adolescents, t'essaies aujourd'hui un peu de les retranscrire dans tes podcasts ? Parce qu'ils sont très forts, ces sentiments adolescents, si tu t'en rappelles.
Ben, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que y a un épisode que j'ai écrit dans Le son du désir où ça se passe dans un café. Et en fait, il ne se passe rien dans cet épisode, ou à peine, juste un baiser qui est échangé. À la fin de l'épisode, ben je l'ai divulgaché, mais que se passe-t-il ? C'est un jeu de séduction par des regards.
Okay.
C'est un jeu de séduction par des mains qui vont se frôler, où il y a juste deux personnes qui sont l'une à côté de l'autre. L'héroïne de l'épisode, qui est la personne qui écoute, est censée être en face de son boyfriend. Et donc le narrateur que j'incarne est censé être à côté et vivre ça. Et quand j'ai écrit cet épisode, effectivement, moi je me rappelais de cette électricité qui existe quand on est au collège et puis il y a cette fille qui est superbe et qui vient de s'asseoir juste à côté. Rien que le fait qu'elle s'asseye,
C'est un événement.
Mais quelle chance!
C'est un événement.
C'est-à-dire que il pleuvait, non, le soleil arrive d'un seul coup, tous les nuages s'écartent et on a l'impression que même il y a des papillons, on ne les voit pas, mais toi tu les vois. Et elle est là et finalement, elle se rapproche encore. Et on va essayer de coller très lentement un tout petit peu plus sa jambe pour se dire, mais est-ce que c'est vrai? Mais pourquoi elle le fait aussi l'air de rien? Elle parle à ses copines juste à côté, mais il se passe quelque chose, il y a cette alchimie. Et elle a... On sent qu'elle a quand même envie de s'approcher, mais en même temps, elle sait que tu es... le mec, elle te regarde, elle voit tes gros boutons, elle se fait... Mais non, ce n'est pas possible, finalement. Je l'avais vu de loin, elle a mis ses lunettes, finalement, paf, elle est repartie. Mais...
Elle s'était trompée.
C'est pas grave.
Mais c'est fort, déjà, ce qui se passe à ce moment-là.
Ce moment de l'amour naissant est toujours quelque chose de fantastique. Et effectivement, oui, ça peut nourrir ce que je raconte aujourd'hui. Quand je vais écrire des contes comme dans ma série Contes et Mythes, d'un jeune homme
romantique
voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi un titre aussi long, mais...
On va faire une fiche.
Ça raconte ça et des choses qui se sont passées également plus tard, mais et de se dire... il y a tellement de souvenirs qu'on a tous, on éprouve tous des choses, on est des éponges de nous-mêmes, quelque part on en garde, et puis quelquefois qu'on est serré, ça fuit, on en a partout, on va aller chercher. Je fais beaucoup de gestes, ça ne se voit pas, c'est dommage. Oui, cher public, je suis désolé.
On est vraiment sur un orateur physique aussi, donc un show quoi.
Mais ça coule par terre, ça ruisselle tout ce qu'on a dans notre passé, dans notre vécu, et... On a envie de le reprendre et puis de finalement se dire, tiens, parmi tout ce qui a ruisselé, qu'est-ce qu'on en retient?
Oui, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'en fais? Oui, bien sûr.
Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a de l'or là-dedans. Même dans ces larmes qu'on a prises, qui sont montrées entre nous, qui sont reparties, qu'on a acheté, et bien dans ces larmes, finalement, il y en a qui valent de l'or. Et ça, c'est très chouette.
Peut-être que si tu avais été ce garçon sans bouton et qui faisait du foot, tu pourrais pas raconter tout ça.
Sauf si j'étais David Beckham.
Oui, ça, c'est pas faux, mais... Donc, pour essayer de garder cette temporalité, donc tu es au collège, tu vis ces expériences unilatérales. Est-ce que tu vas avoir accès au porno à la maison? Tu es au collège dans les années 90.
Yeah, c'est canon.
À l'époque, il y a M6, Canal avec les pornos du samedi soir, etc. etc. Est-ce que tu vas avoir une ouverture à la pornographie à un moment donné ou c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout?
Non, pas du tout. Mais moi, je savais que ça existait parce que des personnes en parlaient. Mais oui. Il y a un truc très fort, c'est un jour, je vois un téléfilm sur Arthur Rimbaud et la vie d'Arthur Rimbaud me fascine. Et je me dis, mais c'est dingue, ce mec qui écrivait. Les gens, ça croyait qu'on allait parler de cul et
c'est ce
on
que
parle
j'allais
d'Arthur
dire.
Rimbaud.
Là vraiment,
mais
on est très très.
Comment on est passé au téléfilm
dans la même minute, il y a porno Rimbaud, tu vois.
Et ce mec qui écrit des choses magnifiques décide de tout arrêter et de partir et de partir d'avoir totalement arrêté de vivre dans une vie où il s'est dit je n'écrirai plus rien, de cette souffrance qui émane de lui. Et bref, j'en ai pas dormi et je sais pas, je dois avoir 15 ans, un truc comme ça. Et le lendemain, je suis pas allé au lycée.
Ah oui.
Et je suis allé dans une librairie acheter tout ce que je pouvais d'Arthur Rimbaud pour me replonger là-dedans.
Ça t'avait chamboulé comme ça?
Ouais. Ah ouais. Incroyable. Et c'était moi, je veux dire que toute la puissance de cette poésie, toute la puissance de ces écrits, finalement, jetait le trouble. Et c'est terrible. Et je suis tombé amoureux d'Arthur Rimbaud. C'est la première fois que je suis tombé amoureux d'un homme et la dernière fois. Mais c'était un truc incroyable. Et je me suis dit, mais moi, je rêve d'être ça. Et
d'être
grâce
un poète.
À ça, vu que j'étais pas le seul finalement à aimer Arthur Rimbaud, je dis, grâce à ça, grâce à l'écriture, finalement, eh bien, je peux toucher davantage de personnes. J'en suis sûr. J'en ai l'intime conviction.
Tes émois se traduisent dans la lecture de ces récits, de ces poèmes et de ce qu'il a mis sur le papier.
Dans ce que ça évoque, dans ce que ça fait vivre, quoi. Dans ce que ça fait, c'est juste incroyable. Et puis. Voilà, il y a ça, et puis encore une fois, des images et d'autres choses qu'on va lire. Il y a des poèmes érotiques de Baudelaire qui sont absolument incroyables. On se dit, mais mince, ok, il y a un double sens. Il y a la musique, il y a tout ce que Gainsbourg peut donner de cru dans ces textes et dans ces disques concepts, quoi, dans ces histoires.
Tu tombes en amour de Arthur Rimbaud, qui t'accompagne à ce moment-là. Comment tu continues cette vie et comment tu vas commencer à écrire et à arriver à un peu plus consolider ce rapport-là à la sexualité et à l'érotisme?
Ben, moi, j'écris depuis toujours. Mm-hmm. C'est-à-dire, je pense que moi, mais parce que j'ai été artiste, j'étais chanteur. J'ai fait une dizaine d'années, j'ai mené pendant une dizaine d'années la vie de saltimbanque.
Ça veut dire intermittent, du spectacle.
Quand on y arrive. Et en fait, moi, j'ai écrit ma première chanson, c'était ma mère qui notait, donc j'avais 3 ans parce que je ne savais pas écrire. Et moi, pendant tout mon collège, mon lycée, j'écrivais des poèmes que je glissais quelquefois dans des cartables ou des jeunes filles ou des trucs comme ça. Mais je l'ai fait encore après, c'est-à-dire que c'est un truc qui me suit, qui me poursuit, que je fais tout le temps. Je fais un petit bouquin pour rigoler, pour me faire plaisir, où j'écris des mots doux, d'ailleurs, ça s'appelle 100 mots doux. Si vous voulez l'acheter, je crois que vous pouvez plus, j'ai dû enlever le lien sur ça peut se retrouver sur Amazon, ça s'appelle 100 mots doux.
On va mettre le lien parce que cet épisode part dans tous les sens, donc on va mettre tous les petits liens. Et donc tu écris 100 mots doux.
Et en fait, voilà, c'est ce genre de petits mots, de petits mots doux que j'ai.
Mais d'où ça te vient ? Est-ce que je sais pas, tu as été inspiré ? Alors tu m'as expliqué, mais est-ce que je sais pas, tu t'as baigné dans un milieu artistique, est-ce qu'on t'a nourri à ça ? Parce que comment ça peut venir, ça ?
Non, du tout. Non, moi, je viens d'un milieu plutôt modeste. Mais j'ai toujours voulu sortir. J'ai toujours voulu sortir de là où j'aurais pu rester. C'est un peu
d'accord.
compliqué.
D'accord. Non, je comprends.
Mais voilà, j'ai grandi dans le sud de la France, dans une région qui est culturellement sinistrée. Où en gros, si tu ne jouais pas au foot, si tu n'avais pas de mobilette, si tu ne fumais pas de la beuh et que tu n'écoutais pas de rap,
donc toi,
et que tu n'aimais pas le soleil...
T'arrives avec Arthur Rimbaud...
C'est un peu compliqué pour toi. Ouais. Et effectivement, quand tu es dans un petit village et tu écoutes du jazz et du rock, que tu refuses de mettre des shorts alors qu'il fait 40 degrés, que tu as des longs jeans noirs... tu te sens différent, eh bien tu vas chercher ailleurs. Chercher ailleurs, c'est d'ailleurs effectivement chercher ce jazz, c'est chercher à regarder des choses uniquement en VO parce que alors, à l'époque tu pouvais pas forcément changer la langue sur ton poste de télé.
Et il n'y avait que 6 chaînes.
Enfin, dans le sud de la France, je captais pas. Je suis désolé, j'en avais moins que ça.
Oh là. Ok.
Ouais. Tu vas chercher dès qu'il y a une médiathèque qui ouvre, tu fais waouh, médiathèque. T'es là-dedans, tu vas chercher des bouquins, mon but c'était de me recréer un personnage. Et finalement, je fais encore la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est agréable de se créer des personnages, de s'inventer un autre. C'est peut-être à travers ça qu'on se rencontre vraiment. On est tous plus ou moins des personnages. Toutes ces personnes qui font les couillons sur TikTok. C'est TikTok, oui, c'est ça. C'est le vieux. Qui vont danser comme s'ils avaient des problèmes. C'est terrible, quoi. Bien, finalement, ils s'inventent un personnage.
Sûr,
une vision rêvée d'eux-mêmes. Tu vas mettre des vêtements qui te font rêver parce que tu les as vus dans Emily in Paris et tu te dis, tiens, je vais faire la même chose. Ou ailleurs, parce que Star Trek ne fait plus rêver. Tout ça, c'est du second degré. Je n'ai pas d'émoticons audio, mais c'est du second degré. Sauf que moi, le personnage, j'ai envie qu'il soit un peu plus creusé. Donc, je vais l'écrire. Là, j'ai fait 5 épisodes donc, de ce petit feuilleton des contes et mythes de la vie sexuelle d'un jeune homme romantique, je l'ai dit en entier, j'avais oublié un truc tout à l'heure. Et donc, je raconte différentes histoires. Il y a celle qui avait des tatouages, il y a celle du 8e sous-sol, celle qui jouait de la basse, celle du bus anglais. Et à chaque fois, je raconte des histoires en disant... Et je me rappelle de celle qui jouait de la basse. J'étais dans cette petite ville, elle est venue. Enfin, je raconte toute une histoire, comme je vous la raconte là. Mmh. Et c'est un personnage, et puis finalement pas vraiment. C'est-à-dire que ce sont des choses qui me sont réellement arrivées. Et peut-être que quelquefois j'en mets plusieurs ensemble, histoire que ce soit un peu plus creusé. Et dans lesquels, quelquefois, il y a plusieurs personnes qui vont s'y retrouver. Mm-hmm. Et se dire, tiens, ça résonne chez moi. Un peu de la même façon que d'aucuns regardent des personnes gesticuler frénétiquement sur TikTok et se disent, oui, cette personne ose. Mais finalement, ils ont bien raison, ils osent. Et puis, ils se sentent libres en faisant ça, plus que moi, je n'oserais le faire. Et quand on le regarde, finalement, ça nous fait sourire. Et puis finalement, pourquoi pas.
Je voulais te demander, quand tu écris ces femmes, est-ce que un fantasme total que tu mets sur le papier, ou est-ce que tu t'inspires des femmes de ton quotidien, des femmes que tu croises, peut-être des actrices, j'en sais rien, mais est-ce que ça part toujours de quelqu'un qui existe, ou c'est un pur produit de ton imagination?
Ça dépend. C'est marrant. Il y a un livre, un roman que j'ai écrit, qui va sortir cette année, qui s'appelle Les 7 leçons du désir.
Les 7 leçons du désir.
Ouais.
Tout à fait.
Je suis allé vraiment chercher très loin mes trucs. Je fais le son du désir. J'ai fait un
roman sur les 7 leçons du désir.
La pauvreté de la réflexion. Et bon, en gros, cette histoire.
Ça sort quand?
J'en sais rien.
Comment ça t'en
sais rien? Fin 2022.
Fin 2022.
Voilà. Et donc, ça raconte l'histoire de Clérine, qui est une jeune femme qui quitte la personne avec qui elle est et avec qui elle a vécu pendant 10 ans. Une histoire qui était pas triste, mais qui ne l'a pas comblée. Et,
tiède, quoi.
Ouais, tiède. Puis à un moment, elle se dit, finalement, ce mec-là, j'ai rencontré, j'avais même pas 20 ans, j'arrive vers mes 30 ans, et peut-être on peut vivre autre chose. Mmh. Et donc, elle va reprendre en main sa vie, en regagnant son estime de soi, à travers ses nouvelles expériences sexuelles. Pourquoi je me sers de ça pour répondre à ta question? C'est que finalement, donc ce roman, moi c'était un feuilleton que j'ai écrit à la base et que j'ai mis sur le son du désir toutes les deux semaines et que j'écrivais peu à peu. Avant de le réécrire totalement pour en faire un roman, mais donc j'avais les réactions des auditrices.
Ça veut dire que tu l'avais pas écrit avant?
Non.
Chaque fois, c'était un nouvel exercice.
J'avais exactement. J'avais les réactions des auditrices après chaque épisode. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit moi ça me rappelle mon histoire et qui m'ont raconté des choses. Et finalement, d'une situation de base et du fil que j'avais créé dans ma tête au début, mon petit plan, je m'en suis totalement dévié. Parce que en prenant appui sur ces vies que je rencontrais petit à petit,
concrète,
sur ces personnes
réelles.
Qui, comme celles qui viennent ici et posent leurs fesses sur ce canapé un peu trop mou.
Ça, c'est ton avis.
Et finalement, ça permettait de nourrir le récit. Et c'était incroyable de pouvoir se dire, tiens, finalement, on va faire bouger ce personnage de façon différente. Parce que ce que une telle a bien pu me raconter, ça résonne mieux et c'est beaucoup plus vrai. Et finalement, cette histoire, elle va raconter plusieurs personnes. Finalement, pour raconter un personnage, c'est pas tant de dire c'est une jolie fille qui m'a plu parce que elle avait telle forme ou elle s'habillait comme ça. Et c'est plus la psychologie de la personne qui, moi, va me toucher et qui m'a toujours touché.
C'est hyper intéressant. Donc, ça veut dire que Clérine, c'est le fragment de toutes tes auditrices qui t'ont donné un petit bout à un moment donné.
Ah ouais, mais
c'est génial.
Il y a 25 chapitres et sur ces 25 chapitres, effectivement, tu as peut-être une cinquantaine de personnes qui ont participé à nourrir chacun des personnages.
Bravo quoi d'avoir réussi à faire ça.
Après, t'as pas lu. Tout écouté, il lit le truc. Donc parce qu'entre le podcast et la version écrite, finalement dans le podcast, j'avais un discours qui était plus proche de la discussion. Et au fur et à mesure que j'évoluais au gré des épisodes, ça devenait plus littéraire. Et c'est à la fin où je me suis dit, tiens, finalement, ça peut faire un roman, au-delà de faire un feuilleton sonore.
Comment tu te sens quand t'écris, toi ?
Ça dépend. Je suis désolé, je comprends pas trop la question.
À chaque fois que tu parles d'écriture, ton visage, il s'ouvre. Quand je te pose une question perso, je sens qu'il y a un contrôle, tu vois. Mais dès que je te parle d'écriture, il y a un truc chez toi, on sent que c'est... Si tu pouvais ne faire que ça, j'ai le sentiment que ça te...
Oui, moi je me sens d'abord auteur. Mm-hmm. Et désolé si mon visage se referme quand on parle de choses perso. mais c'est... c'est juste que l'écriture, c'est à la fois Être libre, c'est une totale aliénation. C'est le moment où on va pouvoir réinventer sa vie. C'est le moment où on va pouvoir enchanter son quotidien. Ou même si c'est l'enchanter avec des choses tristes, hein, finalement, c'est l'ensemble des sentiments... n'est pas que des petits papillons qui volent et du bonheur partout, mais l'écriture, elle a un pouvoir absolument dingue sur soi-même. Et comment je me sens quand j'écris ? Eh bien, ça dépend. Si je commence à écrire un truc et que je sais que je dois arrêter pour X ou Y raisons, des raisons familiales, des raisons de travail ou quoi que ce soit, et que, que l'histoire n'est pas entièrement terminée, le chapitre n'est pas terminé, mais je vais être invivable jusqu'au moment... où ce truc sera terminé. C'est une horreur. Et en même temps, c'est un exercice extrêmement personnel, parce que les histoires de Clérine dans Les Sept Leçons du Désir, là, c'est le côté très roman où je ne parle pas à la première personne du singulier. En revanche, dans les contes et mythes de la vie sexuelle d'un jeune homme romantique, j'ai réussi à le dire cette fois-ci, c'est formidable. Eh bien, je dis « je », et pourtant, j'essaye vraiment de garder un côté très littéraire là-dedans est très personnel. Okay. Parce que, en fait, tout ce que j'ai pu vivre, je me suis aperçu un jour que ma vie était un roman. D'accord. Était complètement dingue.
Ta vie réelle ? Ou ta vie...
Non, mais ma vie, vie en général. Mais sans mentir. C'est, si je meurs là
on ne te le souhaite pas.
Je me fais écraser. Il y aurait quand même un paquet de choses que j'aurais vécu qui sont juste
dingue.
Un peu dingue, ouais, cool.
Ouais, c'est chouette. Et c'est chouette de le partager différemment dans tes différents écrits. Comment ça t'est venu cette idée du podcast Leçon du désir ? Donc on en parlait, t'as lancé ça au printemps 2019 ?
En avril 2019. C'est à la croisée de plusieurs envies. Mm-hmm. Il y a déjà que... La première chose, c'est que ça faisait un paquet de temps que j'en avais marre de mon travail de salarié. Et j'avais l'impression, en fait, que je ne servais à rien. Donc j'ai 43 ans, pendant 10 ans, j'ai tenté d'être star de la musique. Réellement tenté.
Mais tu chantais quoi ?
Moi, je faisais du rock, ouais.
Trop bien.
J'ai joué à Rock en scène, Solidarity, tout ça.
Mais en tant que dans un groupe ou
ouais, dans un groupe. Pendant 10 ans, vraiment, j'ai voulu vivre l'aventure rock'n'roll et j'ai vécu l'aventure rock'n'roll.
Ok.
Et l'aventure rock'n'roll, c'est un truc absolument dingue où tu vas rencontrer énormément de personnes, où tu vas faire des tournées de 200 dates partout en France. Tu vas enregistrer avec les producteurs de Placebo ou des trucs comme ça et tu vis le truc et tu dis mais c'est absolument dingue. T'as des fans, tu vis un truc de dingue. Et en même temps.
Bah là, t'es autour du désir, quoi, totalement.
Ouais, totalement. Et en même temps, tu gagnes rien, tu gagnes pas ta vie. And when you're nothing, un jour, tu acceptes l'argent du diable et tu rentres dans le rang et tu vas travailler dans un bureau.
Donc, t'as fait ça 10 ans, la musique.
Ouais.
Et au bout de 10 ans, tu t'es dit, bon. Voilà, c'était sympa la vie rock'n'roll, mais...
Bah, j'ai eu la possibilité de travailler dans un bureau, faire de la création, mais différente. Et du coup, pendant 9 ans, ouais, je faisais de la communication, je faisais de la photo, je vis des trucs absolument... très cool également. Voilà, t'es à Londres avec je sais pas quelle autre star en train de faire un clip.
Ouais, tu me disais que t'as travaillé avec des grands noms de la photo et tout. Ouais.
Donc ça, c'était plutôt chouette. Mais en même temps, tu sers à rien. Et un jour où tu t'es vraiment vidé de ce truc et tu te dis, tiens, à quoi je pourrais servir ? Et moi, j'avais des copines féministes. Un soir, on discutait du mouvement MeToo. Ouais, mais vous, les mecs... vous faites rien en fait sur la sexualité féminine. Et je fais bah si, mais tu rigoles, on fait plein de trucs.
Quoi ?
Elle fait ouais, toi tu fais quoi ? Et là je regarde mes pieds. Là.
Ton petit 46 fillette.
Je regarde, ouais, ouais. Comment tu sais ma pointure ?
Je suis très fort, tu te dis.
Ouais, génial. Et penaud, je relève le menton et je dis bah. Rien, mais je t'assure, j'ai fait un truc. Et quelques semaines plus tard, en fait, voilà, j'avais arrêté de travailler et j'ai lancé le son du désir.
Ok.
Parce que je me suis dit, tiens, s'il faut faire un podcast, Donc on était en 2019, c'est maintenant et c'est pas plus tard, parce que finalement tu peux le faire en 2020, en 2021, mais ce sera beaucoup plus dur.
Et on en parlait, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui, c'est difficile de trouver sa place, quoi.
C'est très compliqué. Là, je me suis dit, tiens, il n'y a pas beaucoup de monde, mets-toi là, gros, paf, et fais ton podcast comme tu veux, fais-le en donnant tout ce que tu peux, en mettant tout ce que tu as vécu d'aventure, d'histoire. D'histoire d'amour, d'histoire sexuelle, de fantasmes, là-dedans, et fait un truc vrai. Mais je me suis dit, tiens, je prends juste un téléphone, si je réussis à fédérer une audience, avec juste en enregistrant avec le micro du téléphone, en montant avec le téléphone, en mettant en ligne un téléphone, en prenant un abonnement gratuit pour rien payer, les mecs radins. Et si ça marche, ce sera cool, tu pourras dépenser un peu plus. Et c'est avec donc l'énergie du désespoir et en mettant toutes les conditions les plus rudimentaires pour y arriver,
ouais,
que finalement, ça a fonctionné. Et j'ai commencé à avoir des articles assez rapidement, c'était très cool. Et beaucoup de personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont dit, bah, tiens, ça résonne chez moi, les mots, ils veulent dire quelque chose, tiens, les aventures... Effectivement, ça se passe dans un parking, ça paraît sordide, mais moi ça me parle.
Ouais, c'est un kink, un truc qui...
Par exemple, mm-hmm. et puis t'as d'autres personnes, et c'est un jour, tu lis un message et tu te mets au PLS parce que c'est une personne qui t'écrit, qui me dit, bah voilà, j'ai eu... problème dans ma vie, des violences, des choses comme ça, et j'ai pas eu de sexualité depuis 3 ans, et c'est la première fois depuis 3 ans que j'éprouve du plaisir.
Que ça revêt quelque chose.
Voilà.
Ah ouais.
Et là, tu fais putain, merde, je touche un truc sensible. Tu sens une responsabilité, mais en même temps, tu dis je ne veux pas de cette responsabilité. Je veux faire un truc assez libre, mais je veux faire un truc qui soit. Bah, tu sens que il y a que ton projet finalement, il doit être le plus sain possible. Il est porteur de sens. Et t'as d'autres personnes qui ont vécu une chimio, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Il y a des personnes qui sont handicapées, qui écoutent le son du désir. Et des personnes qui juste l'écoutent parce que ça leur fait plaisir pour les mots. Mmh. D'autres personnes juste qui ça leur fait plaisir pour les histoires. D'autres personnes qui vont l'écouter parce que ça leur plaît d'avoir un amant secret qui finalement ne viendra jamais les retrouver en bas de chez elles en train de dire
Sophie.
Non, ça n'arrivera jamais. Et ça, c'est... Là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça.
Ça donne du sens, quoi.
Ça donne du sens. Donc, ce qu'on disait, c'est pourquoi ce truc-là, à ce moment-là, c'est pour toutes ces choses. Servir aux autres. Moi, faire quelque chose qui soit ma propre création et entièrement libre. Mmh. Et également qui me pousse à écrire. C'est-à-dire que, après avoir fait beaucoup de musique, après avoir fait beaucoup de visuels, de photos, de trucs comme ça, depuis le début, je me sentais une âme d'écrivain. J'écris plusieurs romans qui n'ont jamais abouti.
C'est ce que tu disais, t'es un auteur dans l'âme, quoi.
Une horreur. Et puis tiens, en faisant ça, ça va me forcer à écrire. Je fais un épisode tous les 15 jours. En parallèle, je fais une histoire. Qui à la base, je me suis dit, ça m'intéressait que moi, et donc ce sera une histoire. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de Clérine et les 7 leçons du désir, fait de cette façon-là. Toutes les histoires, allô ma chérie, finalement, oui, il y a un fond de vérité dans tous ces fantasmes-là. Pour qu'on puisse. J'arriverai pas, moi, à écrire et à jouer une expérience qui n'est pas un fond de vérité.
D'accord.
Si on va toucher des thèmes BDSM, faut qu'il y ait. Je sais pas, on a fait 4 épisodes comme ça. Je sais à quoi ça ressemble.
Oui, tu sais de quoi tu parles.
Voilà, tous les trucs. Et aujourd'hui, on a fait plus de 60 épisodes. Je dis on parce que j'ai la chance d'avoir une petite équipe autour de moi. Là, j'ai une monteuse qui m'accompagne. Non, elle n'est pas là, mais je commence à avoir des personnes
qui bossent avec
qui écrivent également.
Ah oui, c'est vrai ce que tu me disais. Ouais.
Ça, c'est très chouette.
Mais surtout pour toi, ça va être challengeant. Ça doit être intéressant aussi de te confronter à l'écriture.
Et on va travailler le thème ensemble.
Ouais.
Typiquement, là, j'étais avec une autrice et je lui dis, bah tiens, moi, j'aimerais bien faire le thème du Géo du Club Med. Mais de le faire différemment. C'est-à-dire, comment tu le sens ? J'ai dit, bah, j'aimerais bien qu'on fasse l'histoire de... avec l'auditrice, on va ensemble au Club Med et il y a ce Géo qui va te draguer.
Ok.
Enfin, qui va draguer l'auditrice, pardon.
Bien sûr, on entend.
Et on va inventer une sorte de ménage à trois comme ça. C'est-à-dire que le narrateur, il va être un petit peu le dindon de la farce. Voilà. Mais voilà, et ce sont des choses qui... effectivement, on se nourrit du vécu dans ces choses-là.
Mmh.
C'est marrant. Ça permet d'exorciser plein de choses.
L'œil qui frise. Mmh. Comment tu décrirais exactement le son du désir ?
Le son du désir, c'est une fiction érotique, immersive. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui vont employer le terme audio-porn. Moi, je l'aime pas trop parce que ça renvoie à pornographie. Et pour moi, la pornographie, ça renvoie à porn-hub et porn-truc et porn-bidule et porn-machin. Et c'est une vision qui est, pour moi, malaisante. Ça évoque des pratiques de production qui sont dégradantes. Ça évoque des images qui sont avilissantes.
Mmh.
Voilà. Et je veux pas m'inscrire dans cette ligne-là.
Bien sûr, je comprends. Oui, t'es dans quelque chose de plus nuancé, plus subtil.
Mais les fantasmes peuvent être les mêmes. On peut traiter de pluralité masculine et en même temps faire en sorte que il y ait, tiens, moi j'aime pas le mot bienveillance, par exemple.
Ça c'était le mot 2021.
Il m'énerve, je n'aime pas du tout. Et on peut faire en sorte que ça soit doux, généreux, que ça soit
safe, qu'on se sente
exactement. Mmh. C'est pas une mince affaire à retranscrire, à l'écrire, à retranscrire.
C'est un sacré exercice
dans
aussi.
Le truc, mais c'est possible.
Combien de temps pour un épisode tu écris ?
Bien 2 heures d'écriture, voire 3. Il y a c'est principalement ça. L'enregistrement, ça dépend. S'il y a plusieurs personnages, s'il y en a qu'un seul, on va le faire en 2 temps. Et puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de montage.
Oui, après.
Je te disais 3 heures. En fait, c'est plus 4 heures en fait d'écriture.
Oui, donc c'est quand
parce
même.
Parce qu'on y revient, parce qu'on va retravailler le texte, et il y a beaucoup de montage. On fait en plus pas mal de sound design.
Oui, c'est vrai.
De plus en plus. Donc, ça t'occupe bien 3 jours.
Tous les 15 jours, c'est un sacré rythme hein, quand même.
Ouais.
Aujourd'hui, alors, tu peux répondre de façon sibylline, comme tu sais si bien le faire, mais qu'est-ce que ça a apporté tout ça dans ta vie d'homme ?
Ça m'a profondément changé. Non, ça m'a profondément changé. C'est-à-dire que dans ma vie, il y a eu des grandes rencontres.
Mm-hmm.
Quand j'avais 18 ans, je suis parti en Chine pour travailler. Et du coup, après bac, on m'envoie en Chine pour travailler. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout expliqué des mystères de la femme. Et là, elle était en train de boire en cas d'en avaler son micro.
Des mystères de la femme, ok.
Mais je ne suis pas en train de parler de dépucelage, hein, c'est du tout. Mais c'est-à-dire bien au-delà. C'est-à-dire que je rencontre en Chine une personne qui fait commerce de ses charmes auprès de plein de messieurs très riches.
Donc une escorte plus-plus, quoi.
Ouais, et qui était donc ma voisine. Et de là où je travaillais.
Une chinoise ?
Ouais. Mmh. Et qui s'amuse, en fait, de me voir complètement perdu, envoyer des fax. Oui, j'ai envoyé des télécopies.
Et qui te prend un peu.
Et qui, un soir, me dit « Ah, mais viens boire, machin. » Et il dit « Sais-tu masser ?» Je dis « Oh, you're hurting me, it's horrible. » Laisse tomber. Et je t'apprends à masser. Et en fait, cette personne va m'apprendre sur je sais plus combien, plus d'un mois, énormément de choses. Et ça, c'est une des rencontres.
Elle t'initie.
Ouais, exactement.
Au corps de la femme, au plaisir charnel, etc. Incroyable. Ouais, c'est effectivement, ça peut faire un roman à soi tout seul, ça.
Bon, c'est une partie. Il faut en faire quelque chose. Non, faut en faire... Mais justement, et ça, c'est intéressant. Il y a eu d'autres rencontres dans ma vie, mais je vis le podcast comme une rencontre. C'est-à-dire la rencontre avec des centaines d'inconnus,
mmh.
UES et même US, parce que j'ai quand même 20% d'abonnés payants qui sont des hommes.
Ah oui.
Qui écoutent des histoires qui commencent par « Allô ma chérie ». Et je les en félicite parce que c'est absolument génial en fait de voir cette ouverture d'esprit.
Et puis il y a peut-être une envie de se...
Ou l'envie juste de se dire, tiens, j'ai envie d'écouter ces histoires
pour,
et de projeter sur autre chose.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça peut être... Enfin, j'imagine que ouais, certains écoutent aussi pour s'approprier aussi peut-être un univers ou quelque chose, parce que effectivement... Il y a toute une population qui a contre sa sexualité, et je l'ai entendu à ce micro-là, des gens donc, qui ont une petite trentaine aujourd'hui, qui ont construit leur sexualité sur la pornographie, vraiment complètement. Et qui aujourd'hui arrivent à des moments où ils se rendent compte que c'est pas ça, ou pas vraiment ça. Et donc effectivement, avoir des plateformes comme les tiennes et des contenus qui sont comme ça, aussi, comme tu dis, doux, généreux, etc., peut-être que... Tu vois, ça apporte aussi quelque chose à leur sexualité propre.
Peut-être, je l'espère. Et en même temps, comme disait Emmanuel, et en même temps, le sang des désirs est quand même inspiré par la pornographie, parce qu'on la rencontre oui. tous.
Mais comme tu dis, c'est la même chose, mais c'est pas fait pareil.
Exactement.
C'est donc.
Il y a un côté moins. Moins violent, mais inspiré, parce que la pornographie ces 20-30 dernières années a modifié notre façon d'appréhender la sexualité. Mmh. Et quelquefois, pour du bon, c'est-à-dire en s'affranchissant de certaines... d'une timidité par rapport à
certains
plaisirs.
Oui, de certains tabous, choses comme
voilà,
ça, bien sûr.
Et de tabous qui étaient en créant d'autres, où donc c'est toujours difficile de placer la limite sur les choses.
Après, ça dépend
libre à chacun de ce qu'il a envie de faire. Donc, le sang du désir est quand même inspiré par cela, très inspiré par une somme d'aventures vécues et puis de rencontres parce que il y a des personnes qui vont m'écrire et qui me disent bah tiens moi mon fantasme c'est tel truc j'adorerais
avoir un épisode
avoir ça alors je réponds pas généralement à ces demandes là ça reste un petit peu ça crée une petite graine
qui va forcément
à un moment c'est plus sûr quand il y a des personnes qui vont effectivement également te dire tiens, j'ai beaucoup aimé tel épisode et de voir quels sont les épisodes qui sont plus écoutés que d'autres. Mmh. Parce qu'à la différence d'un podcast habituel, il n'y a pas d'actualité dans le son du désir. On peut très bien passer de l'épisode 13 au 2 au 18 au 62. Parce que chacun est une histoire à part entière. Et donc, j'aime bien voir quelles sont les choses les plus
plébiscitées. Et souvent, c'est ce que tu penses qui va marcher, qui marche ?
Étant donné que les personnes ne viennent pas forcément pour la même chose.
Ouais.
Et effectivement, il y a des personnes qui viennent juste pour le côté romantique. Je reçois des mails qui me disent « Ah, tu vas prononcer que Q-U-E-U-E mm-hmm. » dans le truc, en disant « Tiens, ma queue, da-da-da, c'est horrible. » Puis plus tard, un peu plus loin, tu as prononcé le mot chatte, c'est atroce, il y a d'autres mots, tu aurais pu dire phallus. Et en même temps, je comprends cette personne, parce que pourquoi pas, ça peut paraître choquant, mais c'est juste que j'ai employé une sorte de vocabulaire qui m'était propre et que j'ai continué dans ce personnage au son du désir. Finalement, il s'exprime comme ça, peut-être même que je m'exprime comme ça de toute façon, mais et d'autres personnes qui vont dire ah bah tiens telle partie avec tous les mots d'amour en fait moi je vais zapper je veux juste à partir de 10 minutes
où tu dis bien M A Q E
exactement.
Ouais, mais après c'est ça qui est bien, c'est que chacun il trouve son compte et son plaisir. Tu disais donc que cette rencontre avec le son du désir t'a changé en tant qu'homme.
Oui,
c'est à dire
Ben, c'est-à-dire que, comme je l'évoquais tout à l'heure, quand tu as des témoignages de personnes qui ont été éloignées de leur propre corps pour diverses raisons et qui, à travers ton travail, que tu ne considères pas comme un travail d'ailleurs, refont corps avec cela.
Se re-rencontre ?
Ouais, se re-rencontre. Ben, tu te dis... Tu poses des questions sur toi-même, tu fais attention à ce que tu vas livrer, et également ça va modifier un peu ton écriture. C'est là que j'en viens à ce qui a changé sur moi. J'ai fait des épisodes à un certain moment où j'employais des mots vulgaires. Parce que ça se fait dans la sexualité, quelquefois, il peut y avoir des mots comme salope qui sortent. À un moment, je n'arrivais plus à les écrire. J'ai plus du tout même envie d'interpréter toutes ces choses-là. Je me dis, tiens, ça a changé ça. Et pourtant, il n'y avait pas le côté, pas vraiment dans le côté insulte que j'avais envie d'écrire parce que j'essayais d'envelopper le mot dans quelque chose d'un peu plus. D'un peu plus doux, pas dire hé, salope, mais dire est-ce que tu sens, je sais pas, qu'aurais-je pu écrire, j'aurais pu écrire est-ce que tu as envie d'être là maintenant, ma petite salope. Mm-hmm. C'est pas tout à fait pareil, mais pendant, je sais plus, à un moment j'arrivais plus et j'avais plus du tout envie d'écrire ça parce que j'avais pas envie de m'inscrire dans ce côté avilissant
par rapport à tes auditeurs et tes auditrices.
Ouais, j'y suis revenu parce qu'on me l'a demandé.
Donc t'es quand même dans l'écoute, l'écoute de tes auditeurs et auditrices.
Ouais, il y a une sorte d'écoute dynamique. Mais ça m'a fait, voilà, ça me fait beaucoup plus réfléchir sur, sur nous en tant qu'hommes, comment on a pu normer à un moment une certaine évocation du désir et de
domination.
Ouais, mais évidemment, enfin, de domination en général, mais comme un acte sexuel qui est absolument normé et qui finalement correspond pas aux étapes naturelles du plaisir. Et
okay.
Le travail, il est également dans le son du désir, de prendre le temps. Pendant 10 minutes, dans un épisode de 20 minutes, pendant 10 minutes, il ne se passe rien.
Mm-hmm.
C'est juste une sorte de setup du truc et de dire des mots gentils et doux et de valorisation de la personne. Principalement ça, comme tu es belle, comme tu es jolie, sans jamais décrire le corps féminin parce que tous les corps sont différents. Moi, ça m'a fait prendre conscience du côté blessant qu'on pourrait avoir nous les hommes quelquefois dans quand on veut aller trop vite ou qu'on s'y prend mal ou que on va juger l'autre en fonction de ce qu'il porte, ou qu'on fait pas gaffe tout simplement.
Une petite remise en question, en tout cas.
Ah ouais, ouais.
Comment ton entourage a réagi ? Tes potes, tes proches, ils sont étonnés de ce que tu fais ?
J'ai pas d'amis. Non, mais c'est vrai.
Pardon, tu l'as dit avec tellement de... Je n'ai pas d'amis.
C'est pas que j'en ai pas...
Tu as le droit de ne pas avoir d'amis et c'est OK. C'est validé, en fait.
Je déteste et c'est OK.
Non, mais c'est validé. On a le droit de ne pas avoir d'amis.
J'ai peu d'amis, en fait. J'ai peu d'amis, genre de... Voilà. J'ai peu d'amis.
Et donc, ils sont étonnés de ça ?
Non, ça les a fait sourire. Les personnes qui ne vont pas forcément te prendre au sérieux et puis qui te prennent au sérieux quand tu as des articles dans la presse, qui te prennent au sérieux quand...
La validation, toujours.
Quand ça fonctionne, quand tu continues au bout de 2 ans et que tu dis, en fait... évidemment, quand on traite de sexualité qu'on est un homme... On voit le pervers en toi.
Tout de suite, tu penses que c'est aujourd'hui encore, c'est une évidence ?
Surtout aujourd'hui.
Moi, je pose des questions, j'ai pas les réponses.
On voit le mec qui...
Tu penses pas qu'aujourd'hui, on donne un peu plus de crédit aux hommes sur leur déconstruction ?
Moi, je parle de construction.
D'accord.
Parce qu'on est en construction continue. Et que d'enlever des bouts de soi, c'est impossible.
Ok.
On peut s'améliorer. On a beaucoup besoin de s'améliorer. Mais... moi, j'ai beaucoup lu Freud, sous l'emprise lacanienne totale. Et chaque chose qui t'a construite dans ta vie, on ne te l'enlèvera jamais. Et tu vas pouvoir l'améliorer, tu vas pouvoir mieux la travailler, mais ce sera là. Tu ne pourras pas dire finalement, j'ai creusé, j'ai tout enlevé et tout ça.
Je ne partage pas tout à fait, mais ok, encore une fois, je n'ai pas la réponse.
Il y aura quelque chose que tu vas pouvoir améliorer. Il le faut. Et du côté de l'homme, c'est hyper important de le faire. Donc, quand je dis qu'un homme, on va te voir directement comme une sorte de perv en puissance, surtout quand tu dis, je vais parler du désir féminin, et je suis un mec, et j'écris les textes, et je les interprète.
Ouais, je comprends.
Alors du coup, on va dire, soit t'es extrêmement couillu, soit t'es un fou.
Peut-être que la vérité est au milieu.
Ouais, peut-être la vérité est au milieu. Au début, je comprenais pas vraiment ça. Je me dis, je fais ce que je veux, quoi. Mm-hmm. C'est moi tranquille. Et ensuite, je me suis dit, c'est peut-être pas con. Cependant, rien ne m'empêchera de le faire. Et c'est à moi de mieux faire comprendre l'honnêteté de ma démarche.
Okay. Sa motivation et son honnêteté.
Ouais. Et l'honnêteté de ma démarche, c'est également de, quand je vais écrire un texte, c'est de le faire relire par des femmes. Qu'elles puissent me dire, là, on voit un peu trop le regard masculin. Ou
c'est,
pas.
Bon. C'est pour ça que tu as une auteure avec toi, une femme. Une autrice.
Ouais, alors, je vais en reparler juste après, parce que c'est assez drôle. C'est très drôle d'ailleurs. Donc, moi, j'ai appris à faire en sorte que mon écriture, elle soit plus pensée au niveau du plaisir féminin plutôt qu'en me gargarisant et faisant un truc serait un truc bonnant pour un mec.
Une vision masculine pour les mecs, quoi. Okay.
Voilà, merci pour la traduction. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des auteurs ou des autrices, comme vous voulez, et j'ai dû faire ce travail-là avec elles, leur dire « Non, mais attends, non, là, c'est très male gaze. »
T'as dû leur dire à elle en tant que femme.
Grave. Ouais.
Meuf, t'es en train de penser pour le plaisir
d'un
mec.
Bien sûr. Mais la plupart des. Enfin, je sais pas si la plupart, mais en ce moment, la plupart des autrices ou des auteurs de littérature érotique sont donc des femmes. Il y a très peu de mecs. Très peu. Ou alors ils se cachent. Ils me prennent, puis ils se mettent des noms d'emprunt, ce que tu veux. Enfin, tu vois jamais leur tronche. Ce sont des femmes. Parce qu'elles osent plus, mais il y en a plein de ces femmes qui vont écrire avec une écriture qui est... Tu sens que c'est guidé pour le désir masculin.
Oui, comme la caméra dans les pornos qui est faite pour le plaisir masculin.
Souvent, oui.
D'accord, je comprends. Très bien, très intéressant.
Et donc, du coup, c'était marrant parce que je m'y attendais pas. Je reçois ce texte et je dis, écoute, là, le truc, on peut pas le mettre. Bah, pourquoi ? Je dis, bah, parce que, en fait... si c'était pour des mecs, ça serait cool, mais en fait, là, non.
C'est pas le projet,
que,
quoi.
Non, on peut pas décrire le corps féminin comme ça, c'est too much. Elle dit, oui, mais c'est l'homme qui parle à ce moment-là. Je dis, ouais, je sais bien, c'est l'homme qui parle, mais il faut que ce soit un homme qui soit rassurant.
Oui,
donc, il ne peut pas lui dire, là, comme ça,
oui, c'est une femme qui
qu'est-ce
écoute.
Que tu es bonne dans ce truc. J'aime bien qu'on voit bien tes petites fesses bien moulées. Et non, il n'y a pas ça dans le son du désir. Voilà. C'était assez amusant de faire ça.
C'est quoi les projets donc 2022 ? C'est ce livre ?
Ouais, c'est ce livre qui sortira normalement également en livre audio.
Voilà. Ça fait sens.
Voilà. Et il y a l'écriture toujours l'écriture du feuilleton comment on appelle ça ? Les contes et mythes de la vie sexuelle d'un jeune homme romantique.
Tous les 15 jours, on retrouve aussi...
Ouais, sur le son du désir. Il y a continué le son du désir. En fait, pour moi, 2022, c'est vraiment accentuer à fond le développement du son du désir.
Okay.
2022, c'est l'année du son du désir. C'est hyper important. J'ai travaillé pendant 2 ans à créer plus d'une 60aine d'épisodes. Je vais accélérer ça. Maintenant, on a un peu de moyens. Ça permet de travailler avec des personnes qui peuvent écrire, de travailler avec des personnes qui peuvent interpréter également. Moi, j'ai envie de continuer à faire la voix, ça me fait plaisir. Mm-hmm. Bonjour.
Tu l'as fait plutôt pas mal.
Parce qu'au tout début, je voulais pas faire la voix.
Ah ouais, par.
Non, parce que j'aimais pas trop ma voix, mais.
Ah bon. Ouais. En plus, ben, t'as été chanteur 10 ans, tu sais que c'est quand même ta qualité.
Je détestais m'entendre, mais.
Ok. Ouais.
Mais personne ne voulait interpréter mes trucs, donc du coup je l'ai fait moi-même. Donc là j'aimerais bien trouver des comédiens. Je galère un peu à trouver des comédiens.
Ceci est une annonce.
Ouais, c'est vrai, ceci est une annonce. Je galère un peu à trouver des comédiens qui vont pas lire le texte mais vont l'interpréter.
Des comédiens, quoi. Pardon. Pou.
Pou.
J'aurais dû être. Ouais.
Qui vont l'interpréter
Sniper.
Avec le. Merci Eric. Qui vont l'interpréter avec le corps. C'est-à-dire que, au-delà du jeu d'acteur de bien savoir interpréter son texte, eh bien, il a réussi à le faire ressentir comme si la personne qui l'écoutait pensait que réellement, on lui chuchota ses mots à l'oreille. Et ben, c'est couillon, mais j'ai du mal à trouver
des bons comédiens.
Ça.
Ok. Bon.
Et écoutez. Également, il y a le fait. Je suis désolé, hein, je prends du temps sur ton podcast.
Je vous en prie.
Les filles sont beaucoup plus libérées que les mecs.
Ah, c'est ce que tu as constaté ?
Depuis longtemps. Elles arrivent mieux à parler de sexualité, de leur sexualité ou de sexualité en général. Ce dont je m'aperçois, c'est que Bah, le gars qui va s'y intéresser, souvent, alors soit il a peur d'être pris pour le perf du coin, soit il est vraiment le perf du coin. C'est un peu compliqué d'avoir une parole libérée, franche,
authentique.
Et authentique. Et je m'en suis aperçu encore une fois, j'étais au Salon de la littérature érotique en décembre 2021. Donc il y a quelques semaines, à l'époque où nous enregistrons. Et donc il y avait deux publics qui se croisaient à cet endroit, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois, pour cette partie de la population qui peut se reconnaître dans les mots qui vont bientôt suivre, soit des personnes qui ont vécu un tout petit peu l'explosion libertaire post-68arde et qui sont des libertins assumés, fans de la gaudriole, trucs-là, côté un peu paillard du chose. Et donc qui étaient là et qui vont lire de la littérature érotique et qui sont dans cet esprit un peu...
Et même qui mettaient Manara dans leur shot, quoi.
Exactement, les gens qui mettaient Manara dans leur toilette. Et puis à côté de ça, un autre public, alors je vais dire plus sain, pourquoi ? Parce que peut-être plus ouvert à l'expérience, avec moins d'idées préconçues, avec moins ce côté libidineux... qui moi quelquefois peut me mettre mal à l'aise parce que je suis extrêmement prude et je suis désolé et ça se ressent d'ailleurs dans mon écriture, ça, c'est l'ambivalence du personnage.
Ça se sent dans ta corporalité aussi.
Et je voyais principalement des jeunes filles qui arrivaient à mon stand. J'avais un stand Le Son du Désir avec mes trucs et je faisais écouter des podcasts et qui est super ouverte et qui avaient envie de découvrir, qui venaient là surtout pour voir des instagrammeuses qu'elles avaient vues, qui parlent de sexualité, de leur dire tiens voilà, j'achète ton livre, tu me le signes, tiens on fait la photo, de TikTok. Mais ça c'est, elles venaient en bande de copines, tu vois, à 3-4, ou quelques-unes qui venaient avec leur copain, mais le copain un peu plus le visage fermé, ou alors l'air de s'en dégager un tout petit peu, un peu comme on voyait il y a quelques années, ces personnes qui allaient voir... Fabrice Lucchini, tu vois, l'étudiante en sciences politiques au fac de lettres qui va voir Lucchini qui arrive avec son copain et Lucchini de les haranguer un petit peu comme ça. Alors elle est venue là comme ça, elle est avec son mec. Mais viens, mais tu peux venir sur scène.
Mais Alexis, tu es limitée. Mais c'est incroyable cette imitation de Lucchini.
Oui, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je suis
désolé. J'ai vu Lucchini, c'était parfait.
On rit, on pleure, on s'amuse. Hein.
Exactement.
Il y a des méchants et des gentils.
c'est ça.
Et je sais plus où je voulais en venir. Et donc c'était à peu près ça, c'est-à-dire okay. Le garçon finalement qui est un peu traîné par sa copine, un peu gêné, tout ça. Et putain, les mecs, déstressez-vous.
Mais tu penses pas que c'est parce qu'il y a cette crainte de montrer justement cette vulnérabilité autour de la sexualité et qu'il y a tellement de pression autour
mais
de ça pour les hommes.
On est vulnérable.
I know.
Et c'est ça qui est bien. Parce que finalement, on fait l'amour tout nu. Et tout nu, on est vulnérable.
D'accord.
Et la vulnérabilité, c'est également la sensibilité. C'est-à-dire, c'est là où il y a une vraie ouverture par rapport à l'autre et où il y a une vraie. Où il y a la vérité finalement.
Être nu, c'est la vérité.
Bah ouais, je l'ai vraiment connu. Bibliquement, quand on dit j'ai connu cette personne, eh bien, c'est qu'on la connaît réellement, c'est qu'on a fait l'amour avec elle. Et bien, on ne triche pas au lit, normalement. Mmh. On peut jouer des rôles, mais si c'est consenti de partout.
Bien sûr.
Et puis après, on fait. Et on fouette. Mais on l'a raté.
Carrément. Alexis, ce sera quoi le mot de la fin ? Mais comment tu conclurais cet entretien ? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs et auditrices d'On the Verge sur la sexualité masculine ?
Déstressez-vous, tout va bien se passer. Ça peut être bien. Mais généralement, je pense que les personnes qui écoutent ce podcast sont déjà un peu moins stressées. Donc tout. Puis aux femmes qui écoutent, d'ailleurs comme aux hommes, d'ailleurs, tout le monde peut écouter Le Son du Désir. Je vous invite à découvrir ce podcast passionnant et formidable, ainsi que tous les audios qu'on met à disposition chaque semaine. Ainsi que des audios de relaxation d'ailleurs sur la plateforme
avec la voix de Fabrice Lucchini évidemment
mais totalement
super,
restez cool.
Merci Alexis, cet épisode est parti dans tous les sens mais il a un sens.
Ouais, comme quand on copule.
Merci pour votre écoute Et merci à Alexis de s'être prêté au jeu. C'est un épisode un peu différent, j'entends bien. On a parlé un peu moins de sexe. On a parlé de sexualité. C'était sympa d'avoir ce type d'échange. Je voulais vous annoncer, certains le savent puisqu'ils me suivent sur les réseaux sociaux du podcast, mais très prochainement va sortir un livre, On the Verge Podcast. J'ai eu le privilège d'être accompagnée par les éditions Robert Laffont pour ce projet qui est fou, que je garde secret depuis juillet dernier. Donc ça va faire vraiment longtemps que je travaille dessus. C'est un exercice incroyable, un challenge personnel qui est très difficile à vous décrire, mais en tout cas, on est dans la dernière ligne droite et c'est au printemps que sortira ce livre qui est dédié à la sexualité masculine. Ce n'est pas un manuel, ce n'est pas une méthodologie, c'est vraiment un ouvrage qui recueille des témoignages, pour la plupart que vous n'avez pas entendu à ce micro, et des ouvertures, des pistes de réflexion. Enfin voilà, c'est difficile d'en parler parce que je n'ai pas encore une vision totale du livre fini. Mais merci à vous surtout. C'est surtout un message de remerciement car c'est grâce à vous que ce livre va voir le jour. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'On the Verge.